Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Comment les associations vivent la crise? On vous donne des éléments avec l'aide de l'AGLCA de Bourg.
L'association 1 Québec fête ses 30 ans. Pour l'occasion, une soirée québécoise est organisée au théâtre de Bourg. Dans nos studios, le président d'1 Québec et le directeur du théâtre.
Reportage dans les locaux d'Emmaüs, Servas, où le confinement a permis de mieux organiser les ventes de produits de seconde main.
Bourg, en bref.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Les sénatoriales, c'était dimanche dernier. 3 sièges étaient à pourvoir dans l'Ain. Une élection à la proportionnelle qui a fait réélire Patrick Chaise de l'Union de la droite et du centre et Sylvie Gouache-Avant d'Hiver droite. Florence Blatrix-Compta des divers gauches prend le 3e siège. Ils ont été élus par les grands électeurs comme par exemple les maires. Pour rappel, le Sénat examine les projets de loi, dépose des propositions de loi et vote la loi. Pour les projets de loi qui concernent les collectivités territoriales, c'est le Sénat qui les examine avant l'Assemblée.
2 fois moins de TGV Lyria entre Genève et Paris. Ce train grande vitesse qui s'arrête à Bourg-en-Bresse voit sa fréquentation baisser depuis le début de la crise sanitaire. Depuis le 28 septembre, la filiale franco-suisse a donc décidé de ne faire rouler que 4 trains au lieu de 8. Jean-François Debat, le maire de Bourg, demande à ce que la SNCF arrête à nouveau les TGV Annecy-Paris en gare de Bourg-en-Bresse.
Appel urgent à donner son sang. Les réserves sont au plus bas, alerte l'EFS, l'établissement français du sang. La raison? 3 événements, la crise sanitaire, les épisodes caniculaires et les vacances d'été. Et la rentrée n'a pas changé cette situation. L'EFS est très inquiet. Il faut 10 000 dons de sang chaque jour pour répondre aux besoins des malades. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone. Pour trouver le lieu de don le plus proche de chez vous, il y a le site dondesang.efs.sante.fr.
Georges Blanc quitte Lyon. Le chef étoilé, basé à Vona, a décidé de vendre ses restaurants Le Splendide et Le Centre à 2 acquéreurs. Il souhaite maintenant se concentrer sur l'Ain et la gastronomie étoilée.
Quel avenir pour le parc de la Madeleine à Bourg? Une consultation est ouverte. Du sport, de la culture, du calme, donnez votre avis pour offrir une nouvelle vie à cet espace d'un hectare situé vers la préfecture. Pour participer, c'est sur le site bourg-en-bresse.fr et c'est jusqu'au 23 octobre.
Une nouvelle AMAP dans l'Ain, Bourg-AMAP, sera lancée lundi 5 octobre au campus de Bourg. Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Les consommateurs y adhèrent et s'engagent à récupérer chaque semaine un panier rempli avec des produits du moment. Dans ces derniers, il y aura des légumes, des œufs et du pain. Bourg-AMAP sera gérée par les étudiants et les bénévoles extérieurs. La soirée de lancement, c'est le lundi 5 octobre à 18h30 au campus de Bourg.
Des rendez-vous dédiés aux demandeurs d'emploi jusqu'à la fin de l'année. Ils sont proposés par l'agglo du Grand Bassin de Bourg-en-Bresse et commencent ce lundi 5 octobre. La première rencontre qui se déroulera de 10h à midi à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg permettra de rencontrer le groupement d'employeurs du BTP Pays de Savoie et de l'Ain. Toutes les dates et plus d'infos, c'est sur grandbourg.fr.
Pas de grande braderie des commerçants dimanche 4 octobre en raison des circonstances sanitaires. C'est le conseil d'administration de l'Union des commerçants de Bourg qui l'a annoncé.
Autre événement annulé, les 21e rencontres des amateurs de théâtre de Bourg-en-Bresse. Elle devait se dérouler du 29 octobre au 1er novembre. Les contraintes liées au Covid sont trop nombreuses pour permettre le déroulement de ce week-end culturel. Cette semaine, Radio B investit le quartier Pelou Mile pour une émission en direct. Objectif, préparer avec les habitants du quartier une émission autour de la thématique du vivre ensemble. Cette émission sera réalisée de A à Z par les habitants et présentée en direct depuis le centre social Terre en Couleur ce vendredi 2 octobre à 18h sur Radio B. 90 FM ou via notre site radio-b.fr.
Radio B à Peloumaille et à la médiathèque Vaillant. Audrey vous propose de découvrir les coulisses des médias ce samedi. Qui sont-ils? Quelle est la formation des journalistes? Comment se construit l'information? C'est ce samedi 3 octobre à 15h. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Inscription obligatoire auprès de la médiathèque Vaillant.
Après des mois d'attente, la Grenette ouvre ses portes le mardi 6 octobre. Pour ses retrouvailles, le cinémateur vous propose une avant-première. Le film Slalom, en présence de sa réalisatrice, la burgienne Charlène Favier, et son chef opérateur, image et mixeur. Charlène Favier sera l'invitée de notre magazine lundi prochain. Soyez à l'écoute du 90 FM à 18h.
Deux minutes, une actu.
Comment les associations vivent cette crise sanitaire? On fait le point, Inès.
Depuis le 26 septembre, dans plusieurs villes comme Lyon, Paris et Saint-Étienne, les gymnases et les salles de fête sont fermées. Les associations vivent grâce aux frais d'adhésion de leurs bénévoles, mais aussi grâce aux événements qu'ils organisent, comme les kermesses, les soirées festives ou les tournois. Avec ce confinement et ces mesures sanitaires, 9 associations sur 10 ont dû annuler au moins un événement depuis mars, selon l'étude nationale du mouvement associatif. La situation est donc plutôt inquiétante, comme dans beaucoup de secteurs, mais elle dépend aussi du type d'association. Les associations d'aide à la personne ont beaucoup de travail, comme cette crise précarise une partie de la population, mais elles n'ont pas forcément plus de moyens venant de l'État. D'autres, comme les chorales, les clubs de théâtre ou les associations de sport de contact, n'ont pas repris leur activité, comme leur fonctionnement repose sur la proximité entre les personnes.
Et la situation locale ?
Sur Bourg-en-Bresse et son agglomération, le tissu associatif est particulièrement important. Il représente 12% des emplois du privé. C'est environ 4000 emplois. À Bourg, c'est l'AGLCA, une structure d'aide aux associations qui suit l'évolution de la situation. Elle constate qu'un tiers des associations auraient moins de 3 mois de trésorerie. Finir l'année 2020 est donc faisable, mais le pire sera en 2021, constate Loïc Basset, le directeur adjoint de la structure. Les associations doivent aussi faire face aux décisions des mairies, qui parfois sont plus strictes que celles prises au niveau de l'État. Elles vivent donc dans l'attente et l'incertitude.
Et pour faire face à cette situation, il y a des aides ?
Toujours localement, au printemps 2020, l'État a débloqué de l'argent pour les associations très en difficulté. Dans notre agglomération, 5 d'entre elles ont pu avoir ainsi une aide de 5000 euros sur leur trésorerie, selon l'AGLCA. La structure a aussi suivi 13 associations depuis juillet pour les aider à trouver des financements et une nouvelle stratégie pour leur gestion. La GLCA lance aussi Objectif Relance pour les structures associatives avec salariés, un programme où un consultant les conseillera sur 3 jours pour analyser leur situation et faire un plan d'action. Les inscriptions sont encore ouvertes, il faut contacter la GLCA, première séance le 12 octobre.
Et du côté de l'État ?
Début septembre, un plan de relance global a été annoncé avec 100 milliards d'euros déployés, une somme qui pourrait aussi profiter aux associations selon les secteurs concernés. Dans ce plan, il y a un volet qui les concerne en particulier. Il consiste à développer les services civiques, créer des postes de salariés dans les associations sportives pour les jeunes et mettre une somme de 100 millions d'euros qui irait aux associations de lutte contre la pauvreté. En tout cas, en ce qui concerne Bourg et les alentours, n'hésitez pas à contacter l'AGLCA si vous avez besoin de conseils pour votre association. Leur bureau se trouve à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté.
L'invité de Radio B.
L'association Un Québec fête ses 30 ans, l'occasion d'un partenariat avec le Théâtre de Bourg. Les deux structures proposent une soirée québécoise vendredi 9 octobre.
Marc Martin, vous êtes le coprésident de l'association Un Québec, bonjour.
Bonjour.
Vincent Rochelecca, vous êtes le directeur du Théâtre de Bourg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réunis tous les deux pour parler d'un temps fort pour l'association Un Québec, ce sont vos 30 ans. Marc Martin, peut-être un rappel simplement des missions de l'association Un Québec.
Oh ben, Un Québec, c'est une association d'amitié avec les Québécois, nos cousins qui parlent français, et puis également la promotion de la francophonie, on a bien besoin en France.
Vous fêtez vos 30 ans. Comment ça se fête cet anniversaire? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, nous avions fait un programme sur toute l'année. On a fait un repas de gala des 30 ans au mois de février. Et puis depuis, ben, on est comme tout le monde, sujet au confinement. Donc on le fait chez nous, les 30 ans. Hein. On va, je pense, certainement reporter des actions en 2021. Voilà, et on est confronté, je pense que Vincent va en parler, à toutes les consignes, etc., contre-ordre, ordre sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà.
Alors, vous organisez quand même une soirée, un partenariat avec le Théâtre de Bourg. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous rapprocher du théâtre ?
Ben parce que c'est important et qu'on le faisait déjà avec Oyonnax et qu'à Bourg, c'est important qu'on puisse avoir un partenariat. Nous, association de bénévoles, on n'a aucun moyen d'organiser des spectacles. Et je pensais que c'était intéressant, avec le Théâtre de Bourg, de marquer un peu cet anniversaire, sachant que la majorité de nos adhérents sont de Bourg ou proches de Bourg.
Vincent Rochleca, qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de ce partenariat ?
Plusieurs choses. Pour la faire courte, ils sont venus me voir il y a 2 ans en me disant « Bon voilà, ça va être les 30 ans, est-ce que dans ta programmation, tu n'aurais pas un Québécois ou deux qui traînent ?» Et enfin, je la fais vraiment synthétique, mais en gros, c'était la teneur de notre premier échange de cet asso que je ne connaissais pas bien. Et vu qu'ils ont eu l'intelligence de venir me voir très tôt, en fait, moi, ça m'a permis d'avoir ça dans un coin de la tête pour faire des repérages de spectacles québécois, en voir un petit peu plus que d'habitude. Et du coup, fort de ça, moi, je leur ai fait une proposition d'une soirée un peu complète dans laquelle il y aurait plusieurs spectacles, des à côté. Alors après, la réalité récente nous a rattrapés et on a resserré un petit peu ce qu'on propose. Mais au-delà de juste est-ce que tu as un Québécois dans tes programmations, c'est imaginer faire la fête du Québec sur une soirée.
Justement, la soirée s'intitule L'autre Québec. C'est quoi cet autre Québec ?
Ben, je pense,
Marc-Martin,
Vincent va pouvoir. Disons, dans notre esprit à l'association, c'est que, bien sûr, l'image du Québec, vous savez, c'est un mot magique, quand vous dites Québec, les visages s'éclairent, etc. Mais c'est aussi, il y a une image d'Épinal, un peu sur le Québec, hein, les Indiens, le sirop d'érable, les grands espaces. Mais c'est une société francophone minoritaire qui est très dynamique au niveau culturel, et je pense que c'est important de faire connaître à nos concitoyens que le Québec, c'est autre chose que l'image d'Épinal, qu'il y a aussi une création artistique très importante, diversifiée, dynamique, avec moins de carcan de nos sociétés à nous, en plus traditionnelles, etc. Donc je pense que c'était ça, l'autre Québec. Je trouve que le titre correspond effectivement à ce qu'on voulait faire et je crois que c'est intéressant. Voilà.
Du côté de la diffusion culturelle, le Québec est très présent sur les scènes en France, Vincent Rochleca ?
Alors oui, le Québec est assez présent sur certaines disciplines, particulièrement sur l'humour et la chanson. Mais il y a aussi, comme partout, comme dans tous les pays, des marionnettistes et des circassiens de grand talent, par exemple. Et juste pour compléter la réponse de Marc sur l'autre Québec, en fait, nous, ça... On s'est assez vite entendu sur cette envie de montrer autre chose que les canons traditionnels de peut-être qu'on a en tête ou quand on pense aux artistes du Québec. Et c'est vrai que bah, nous, ça venait coller assez vite avec notre mission de diversité, d'éveil ou de montrer des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a pensé ces deux propositions artistiques qui sont des artistes québécois peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Alors justement, les spectateurs vont s'immerger vers un autre Québec avec de la musique pour commencer, le trio Sortilège. Marc Martin, c'est un groupe que vous avez choisi.
Oui, alors c'était un artiste autochtone, un Innu, Florent Volant, qui est très connu au Québec. C'est un des premiers artistes de la communauté des autochtones, des Premières Nations. Bon, sa tournée est annulée parce qu'il avait d'autres dates, mais bon. Contexte. Et le trio Sortilège, il se trouve que je les ai vus au mois d'août en Normandie pour la semaine acadienne. Je les connaissais de réputation et ils étaient libres, donc ils sont basés à Paris. Ben, il y a un Québécois, il y a un violoniste, mais bon, ils étaient disponibles, voilà, il fallait faire trouver. Puis je peux vous dire qu'ils sont contents quand on leur propose une date, parce que ça fait quand même 4-5 mois qu'ils ne travaillent pas. Hein, voilà.
Alors, quelle ambiance est-ce qu'on va avoir avec ce trio ?
Bon, le chanteur, il chante du québécois, du Plume La Traverse. Alors, ce Plume La Traverse, c'est vraiment spécial. Bon. Il chante un peu de français. Et puis, il y a surtout un violoniste extraordinaire. Vous allez voir, là, vous êtes emballé. Il fait des choses extraordinaires. Donc, voilà, ça sera la première partie.
Et en deuxième partie du théâtre, Vincent Rochleca avec un spectacle qui s'appelle Ventre. Vous l'avez présenté à la présentation de saison comme un spectacle intense. Mmh. On peut en savoir plus.
Oui, c'est vrai que là, du coup, le lien avec le Québec se fait via l'auteur du texte, Steve Gagnon, qui est un auteur montréalais. Moi, ce qui m'intéressait quand j'ai rencontré cette pièce il y a un an et demi au Festival d'Avignon, c'est que ça montre aussi le Montréal assez cru, underground, assez âpre, très lié à l'urbain et pas forcément aux grandes prairies qu'on a parfois en tête en pensant au Canada. Et bon, c'est, le pitch est assez simple, c'est un couple qui se fait, qui se défait, qui s'aime et qui s'engueule, et sur une langue qui peut être tour à tour très très poétique ou très très crue. Et du coup, quand je parlais d'intensité, c'est que ce couple entretient des rapports d'une force presque violente parfois, mais en tout cas avec énormément d'intensité amoureuse.
La langue est importante pour les Québécois. On va la retrouver dans ces deux propositions que vous faites.
La chanson de Pomme la Traverse, ça c'est du Québécois. Là. C'est quand même un auteur très peu connu en France, mais qui est un peu spécial, et puis chante pas mal en québécois. Mais sur la pièce, je sais pas, moi j'ai pas vu la pièce, je pense que c'est quand même... Il n'y a pas trop d'expression québécoise, à mon avis, c'est pas du tout le but.
Il y a un québécois assez fleuri.
D'accord.
Parce que quand cette intensité dont je parlais s'exprime dans une certaine colère, c'est un Québécois assez fleuri et qui est du coup assez étonnant dans son décalage par rapport à ce que nous, ça nous agite comme référentiel de mots, parce que du coup, effectivement, les expressions fleuries sont pas les mêmes, et il y a du coup une force et une vitalité de la langue qui est assez réjouissante.
Marc Martin, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui apparaissent là ces temps-ci. Moi, je peux témoigner, ça fait deux romans que j'achète de deux autrices québécoises qui ont moins de 30 ans. Le metteur en scène a 35 ans, il me semble. Il y a une espèce de renouveau de la langue, de l'écriture québécoise, où on est passé à côté de tout ce qu'ils font depuis des années.
Non, parce que nous avons, en parallèle, nous sommes en plein dedans, nous avons un prix littéraire au niveau national, donc il y a une sélection de 3 livres. Je viens de les lire, les 3. C'est aussi beaucoup de femmes. Mm-hmm. Beaucoup de femmes. J'ai participé au mois d'août au Festival du film canadien à Dieppe. Là, il y a 4 réalisatrices qui ont 4 films extraordinaires. Donc, il y a un renouveau. Il y a aussi une politique, j'allais dire, de rééquilibre. En France, c'est très tendu, quand l'affaire Polanski et compagnie. Là-bas, c'est toujours d'une manière de négociation. La société qui produit les films, bon, ils ont mis en place une politique sur plusieurs années pour que les femmes puissent accéder. Et là, la preuve, c'est que j'ai vu 4 films faits par 4 réalisatrices. Et ça, c'est quand même relativement nouveau. Mais c'est une politique qui a été concertée et qui se met en place progressivement. Voilà.
Alors j'invite vraiment les auditeurs à voyager vers ce Québec différent. Ouais. Rendez-vous le vendredi 9 octobre à 20h au Théâtre de Bourg pour fêter les 30 ans de l'association à Québec. Marc Martin, Vincent Rochelecker, merci.
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 Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une bague.
En reportage avec Radio B.
À Servas, la communauté Emmaüs gère une boutique d'objets de seconde main. Vous pouvez y donner des affaires qui ne vous servent plus, mais aussi acheter des objets déposés par les autres. Le tout est géré par les habitants de la communauté qui participent aux ventes et retapent les meubles. Ce sont quelques-unes de leurs missions. Un lieu solidaire où on aime chiner des affaires pour aider l'association. Et Audrey, vous aviez quelques objets à donner. J'en ai profité pour vous suivre à Emmaüs Servas, reportage.
Bonjour. Vous vous débarrassez de quoi là ?
Là, je me débarrasse d'une haltère.
Ça. Hop, elle est ici. Merci. Et vous faites ça souvent d'aller à Emmaüs rendre des affaires ?
Ouais, assez souvent. Ouais.
Ça s'entasse vite ?
Bah ouais, il y a 2 ans qu'on fait le tri régulièrement. D'autres choses qui nous servent plus. Mais qui fonctionne toujours, quoi, qui peut avoir une seconde vie. Hop. Et des choses qui ne nous servent plus. Et c'est difficile de les jeter. Enfin, moi, j'imagine pas de les jeter si ça peut encore être utile à quelqu'un. Donc, c'est pour ça. Donc, donner et recevoir. Bon, là, on achète en faisant une bonne action en plus. On sait que l'argent sera bien utilisé.
Donc maintenant, c'est quoi le plan ?
Maintenant, le plan, une fois que j'ai déposé, c'est d'aller faire un tour à la boutique. En plus, ça a changé depuis le confinement. Ils ont tout refait à l'intérieur, tout réorganisé. Donc c'est l'occasion de voir un peu ce qu'ils ont fait et puis, de voir s'il y a des choses à acheter.
On y va alors ?
On y va.
Donc, qu'est-ce qui est prévu d'acheter là ?
Je sais pas du tout. Étant donné que le magasin a changé, déjà ça va être la découverte des nouveaux espaces et puis voir un peu ce qu'il y a. Je sais pas. Je vais me laisser séduire par différentes choses. Il n'y a pas vraiment d'objectif.
S'il faut pas toucher, on touche pas. On s'adapte. Hein.
Donc ici c'est le rayon chaussures, c'est le pied.
C'est chouette avec les présentoirs comme ça.
Alors ça, en fait, on a déplacé le rayon chaussures qui était où il y a la puériculture maintenant.
Okay.
Puériculture était mélangée avec les jouets, donc c'est vrai que ça faisait un petit peu le, pas le bazar, mais ça y ressemblait bien. On a repris en fait la pièce ici, c'est la pièce qui était ouverte le dimanche. En fait, c'était la pièce où il y avait l'antiquité, les bijoux, etc. ici.
D'accord. Donc là, on est dans la partie vêtements. Donc déjà, je jette un premier regard. Et puis après, on va déambuler un petit peu dans les allées. Je cherche pas quelque chose en particulier. C'est plus en fonction de ce que je vais voir, les opportunités, quoi. C'est pas bien parce que des fois, quand on le voit comme ça sur le centre, on se dit forcément ça va peut-être pas m'aller ou c'est pas trop mon style. Et puis c'est vrai que c'est plus quand on va l'essayer ou on va se dire c'est pas mal. Mais bon, là, vu qu'on peut plus essayer en ce moment, c'est un peu le pari quoi. Ah, il est pas mal celui-là. Très sympa. Donc là, une paire d'oreilles. Hop, et la jupe. Ok, merci.
Là, vous avez un ticket entre les mains. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?
Maintenant, en fait, il y a une personne responsable du secteur. Donc ensuite, on lui donne les vêtements. Elle nous donne un ticket qui correspond à la somme qu'on doit payer. Puis ensuite, là, je suis ressortie. Il y a une caisse dans une caravane. Donc là, je vais payer. Une fois que j'ai payé, je retourne voir la personne qui est responsable du secteur. Et puis, je récupère mes vêtements. En carte bleue, c'est possible ?
Bien sûr.
Allez, en carte, s'il vous plaît.
Et voilà, pour
vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci, au revoir. C'est vrai qu'il faut aussi ne pas être trop dans la surconsommation. C'est-à-dire que c'est vrai que les prix sont vraiment accessibles. Donc on pourrait très bien se dire « je vais prendre ». Mais moi, je prends quand même le temps de me poser la question « Est-ce que je vais vraiment le mettre ?» ou « Est-ce que ça va vraiment être utile ?» Je pense aussi à l'usage que je vais en faire. Avec la jupe et les... Ah, super. Ah bah super, merci. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt, bon après-midi, au revoir.
Des dons non-stop pendant 4 mois après la fin du confinement, c'est ce qu'a vécu la communauté Emmaüs à Servas et beaucoup d'autres en France. Aujourd'hui, le volume des dons revient à la normale. Ces derniers peuvent être stockés dans le dépôt le temps d'être mis en vente. Retour sur ces derniers mois avec les co-responsables à Emmaüs Servas.
Clément Gély, co-responsable à la communauté d'Emmaüs Servas.
Et moi, Lola Brocco, co-responsable à la communauté Emmaüs de Servas.
Donc le confinement s'est terminé le 11 mai. Qu'est-ce qui s'est passé du moment que le confinement s'est terminé ?
Nous, notre zone de don était fermée pendant le confinement. Enfin, on en a profité pour ranger la communauté, pour lui donner un petit coup de jeune. Et à l'ouverture du portail de la zone de don, on a eu une affluence de personnes qui avaient rempli leurs coffres et leurs remorques de tout ce qui devait traîner chez eux. Donc on a réussi à gérer... Là, c'est retombé, on a réussi à gérer. Certaines communautés, à un moment, étaient tellement débordées qu'elles avaient décidé de fermer leur zone de dons, de n'ouvrir plus que le matin pour pouvoir traiter les dons l'après-midi. Nous, on a géré tant bien que mal. Alors, ça paraissait des fois un tout petit peu rempli comme zone, notre entrepôt. Mais là, on a réussi à vendre au fur et à mesure ce qui était revendable. ce qui nous a permis notamment économiquement de bien partir, parce que cette affluence de dons nous a permis de redémarrer des ventes correctes juste à la sortie du confinement.
C'était pas simple du tout, puisqu'au niveau sanitaire, on avait des consignes particulières pour le traitement des dons. Donc il fallait les laisser plusieurs jours dans un espace de stockage. Donc on s'est adapté. On a créé cette zone de stockage, on a laissé beaucoup de dons dehors, donc c'était un gros travail, un gros gros travail quand même.
Est-ce que c'était des personnes qui avaient l'habitude de faire des dons à Emmaüs, ou est-ce que vous avez de nouvelles personnes qui sont venues post-confinement pour déposer des affaires ?
On a eu beaucoup de nouvelles personnes. Il y a eu un appel aux dons au niveau national pour Emmaüs qui, je pense, a permis aussi à faire connaître la communauté. Et du coup, beaucoup de personnes sont venues pour nous déposer en entendant parler d'Emmaüs, notamment dans les journaux et dans les médias.
Et puis, les conditions sanitaires font qu'il y a beaucoup de brocantes qui ont été annulées. Et à la fois au niveau des dons et à la fois au niveau des ventes, enfin de la fréquentation générale de la communauté, ça se ressent énormément, parce qu'il n'y a plus cette voie, cette issue pour les choses de seconde main qui étaient les brocantes tout au long de l'été. Donc on a un nouveau public des deux côtés de la chaîne des communautés Emmaüs, c'est-à-dire des dons et de la vente.
Et justement, donc, concernant ce nouveau public au niveau des ventes, c'est quoi le profil de ce nouveau public ?
Il y a à la fois ces gens qui fréquentaient des brocantes et des lieux où on revendait des objets de seconde main, tous ces lieux qu'on fermait et qui sont plus accessibles, et aussi des gens qui se sont dit, mince, les exclus parmi les exclus, ceux qui sont à Emmaüs, Ils ont pas d'aide de l'État, les communautés, c'est compliqué, parce que quand il y avait aucune rentrée financière, zéro, on a touché pendant toute la période du Covid, on n'a eu aucune rentrée d'argent. Et ça, les gens en ont entendu parler. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'achats solidaires et de dons qui sont faits par solidarité à Emmaüs. Des gens qui viennent parce qu'ils savent que quand on achète à Emmaüs, ça permet de faire vivre une chaîne de solidarité, qu'il y a 28 personnes qui sont accueillies, et que ces personnes, si on vient à fermer, elles n'ont ni chômage, ni aucune aide de l'État. Elles se retrouvent à la rue. Emmaüs, c'est une issue à la rue. Quand on arrive à Emmaüs, c'est parce qu'on quitte la rue la plupart du temps, où on essaye d'éviter la rue, donc on vient à Emmaüs. Après, on peut y rester pour d'autres choses, on peut y rester par conviction, parce qu'Emmaüs, c'est beau, parce qu'Emmaüs, il y a plein de choses qui se passent, mais à l'origine, c'est ça. Et si Emmaüs ferme, les gens qui y sont, je pense que ça aurait été très compliqué pour eux. Donc, il y a des gens qui viennent par solidarité.
Clément Gély et Loa Brocco, co-responsables à Emmaüs Servas.
Du changement aussi pour les grandes ventes du dimanche, ils aimeraient n'en faire qu'une par trimestre. Une vente spéciale avec un thème comme par exemple Noël. Objectif, mettre tous les objets en avant et ne pas en privilégier certains. Autre volonté, en faire aussi une journée festive avec d'autres associations, des concerts, quelque chose de familial à la rencontre de la communauté Emmaüs.
Et on vous redonne les horaires pour déposer vos dons ou acheter. À Servas, c'est du mardi au samedi. Attention, pas de dons le vendredi après-midi. Pour la vente, le mercredi et le samedi, de 9h30 à midi et de 14h à 17h30. Et le jeudi, de 14h à 17h30.
Il y a aussi une boutique à Bourg où pour le moment on ne peut plus déposer des affaires. La boutique est trop petite pour laisser en quarantaine les dons, mais on peut toujours acheter. Elle est ouverte le mercredi et le samedi de 10h à 18h et le jeudi et le vendredi de 14h à 18h. Et du côté des mesures sanitaires, Covid-19 oblige, le port du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique est à disposition et il limite aussi le nombre de clients et de donateurs.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Mercredi à 8h et midi, c'est Vous avez la solution, votre nouvelle émission qui met en avant des initiatives positives et locales. Cette semaine, reportage avec Jérôme et son lama dans une résidence senior.
À retrouver bien sûr en podcast sur notre site radio-b.fr. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.